Il est 17h30, vous écoutez Radio Campus Paris et on retrouve tout de suite l'émission Petite Consultation entre amis.
Petite Consultation entre amis, l'émission santé complètement déjantée de Radio Campus Paris.
Bienvenue à toi, cher patient, dans le cabinet de consultation un tout petit peu déjanté de Radio Campus Paris, dans lequel on disséquera cette semaine l'actualité en commençant par les recettes de grand-mère présentées par le docteur Julie. On parlera des infos qu'il faut, c'est le docteur Marion. La question et la piqûre de rappel, les firmes pharmaceutiques unies contre l'Afrique du Sud. Docteur Léo, vous nous parlerez de tout ça, un gros dossier en tout cas. L'expression de la semaine, casser sa pipe, on reviendra sur une question du forum. Mon bébé peut-il lui-même tomber enceinte si je fais l'amour alors que je suis enceinte? Docteur Julie, vous répondrez à la question de Florencia 69 et on finira par les tant attendus brefs de salle d'attente. À vos stéthoscopes, la consultation peut commencer.
Docteur, paraît que vous êtes docteur, parce que malade, paraît que je suis malade.
Ça y est, en direct sur le plateau de Radio Campus Paris, avec une belle brochette de spécialistes, une très belle brochette. On a presque pas de micro pour tout le monde. C'est fou, bonjour docteur Léo. Léo.
On peut m'appeler Léo.
Allez.
Mais ça va bien.
La voix profonde et caverneuse de la médecine. Tout va bien.
Mais tout va bien, ouais, tout va bien.
À vos côtés, la voix chaude et suave de docteur Julie, bonsoir.
Bonsoir.
Ah, j'aime quand vous dites un bonsoir, vous pouvez nous le refaire.
Bonsoir.
Bonsoir docteur Julie, vous allez bien?
Oui, ça va et vous?
À vos côtés, docteur Marion, notre médecin tête de bois.
Oui.
Oui,
toujours.
Toujours pas d'accord avec ce qu'on dit.
Non, toujours pas. Et surtout avec vous, docteur Loïc.
Et docteur Adrien, notre spécialiste de tout et de rien.
Bonsoir, docteur Loïc.
Bonsoir, allez, avant de rentrer dans le vif du sujet, on se fait un petit tour de l'actu santé.
Cette semaine, docteur Loïc, vous avez testé l'autotest de dépistage du VIH.
Et effectivement, à l'occasion de la journée mondiale de lutte contre le sida qui se déroulait la semaine dernière, on se disait que ça serait pas mal de vous parler de l'autotest du dépistage du VIH. Alors c'est pas la nouveauté de la semaine, en effet cet autotest est arrivé voilà plus de 2 mois dans les pharmacies françaises. Ce kit fabriqué par la société française AAZ permet d'analyser chez soi tout seul, comme un grand, une petite goutte de sang et il coûte entre 25 et 28 euros. Alors mesdames et messieurs, vous allez me dire, pour la modique somme de 28 euros dans toutes les pharmacies françaises, vous allez acquérir le kit du parfait petit laborantin. Alors revenons justement à ce kit. Dans ce kit, vous avez un sachet contenant l'autotest, une dosette de diluant, un autopiqueur, un pansement, mais aussi un support, une compresse, une lingette désinfectant. Bref, de quoi transformer votre coquet appartement en usine à gaz.
Alors concrètement, comment fait-on cet autotest?
Alors la réalisation du test prend 5 minutes et le temps d'attente avant la lecture du résultat est de 15 minutes. Rassurez-vous, une notice explique clairement comment cela fonctionne. Chaque élément est désigné par une lettre, chaque étape est accompagnée de photos d'illustrations. Alors les choses sérieuses commencent avec l'ouverture du sachet. Une étape clé du test consiste à se piquer le doigt afin d'en extraire une goutte de sang. Alors c'est très bien expliqué, après s'être lavé les mains à l'eau chaude avec du savon, il faut se désinfecter le doigt. L'index gauche en l'occurrence à l'aide de la lingette imbibée d'alcool. Puis il faut se piquer l'extrémité du doigt exactement à l'endroit indiqué par les consignes avec l'autopiqueur fourni. C'est marqué clairement, appuyez fortement jusqu'à sentir la pénétration de l'aiguille. En réalité, ce n'est qu'une petite piqûre et la douleur est largement supportable. Aussitôt, comme prévu, une petite goutte de sang se forme. Il faut donc la récupérer et la faire glisser à l'endroit prévu sur le test. Ensuite, il vous reste à connecter l'autotest à la dosette de produit placée dans le support. C'est marqué une nouvelle fois, enfoncez très fortement le support, vous constaterez 3 crans de résistance, averti en lettres rouges la notice décidément très détaillée. Il ne reste plus que 14 minutes à patienter pour pouvoir lire le résultat. En attendant, vous pouvez toujours vous mettre le petit pansement prévu à cet effet, même mais rien d'indispensable si vous ne vous êtes pas transpercé le doigt avec l'autopiqueur. Et j'en perds mes feuilles, il est inutile de lire le résultat au-delà de 20 minutes, précise une nouvelle fois la notice. Et alors concernant le résultat, revenons de façon un peu plus sérieuse, les larges dessins de la notice, beaucoup plus grands que tous les autres, ne laissent aucun doute. Si une seule bande apparaît sur le test, l'autotest est négatif et vous êtes probablement séro-négatif. Et si deux tests malheureusement apparaissent, l'autotest est positif. Deux bandes apparaissent, l'autotest est positif et vous êtes probablement séro-positif. Reste que la notice adresse un message d'avertissement. Dans le cas d'un résultat négatif, il est important de s'assurer que vous n'êtes pas dans la fenêtre sérologique et de consulter un médecin. C'est-à-dire quoi ? Ça veut dire que si dans les 3 derniers mois, vous identifiez une possibilité de contamination au VIH, vous ne pouvez affirmer que vous êtes séro-négatif à ce jour. Vous devez donc refaire l'autotest 3 mois après votre dernier risque d'exposition au VIH. En clair, si vous avez une pratique à risque il y a moins de 3 mois, ce test n'est pas forcément révélateur et vous devrez le refaire ultérieurement. Au final, la réalisation du test ne prend effectivement que 5 minutes. La notice est limpide, les illustrations et les instructions vous guident pas à pas et de façon très claire. La lecture du test est nettement mise en avant dans la notice. Elle peut faire penser à celle que l'on trouve notamment sur certains tests de grossesse et la manip est très facilement réalisable. Sans compter que les messages de mise en garde sont omniprésents, ils précisent notamment que le test peut indiquer de faux positifs, mais cela n'a pas été observé. Cela n'a été observé que très rarement, avec un taux d'erreur de 2%. Voilà, enfin en tout cas, il ne vous reste plus qu'à exercer votre nouveau talent de laborantin et courir acheter ce nouveau test du VIH à vos piqûres. Alors c'est un peu la bonne santé et surtout la bonne santé quand on entend votre voix, docteur Julie. Alors cette semaine, comme annoncé, vous allez nous parler des recettes de grand-mère, notamment contre tous les maux de ventre, maux de quoi d'ailleurs ?
Les maux d'hiver,
ouais. Des recettes de grand-mère.
Voilà. Alors un petit rhume, une migraine passagère, une toux ou un mal de gorge, nous n'avons pas toujours le temps ou l'envie de courir chez son médecin traitant. Aïeul, bonne maman, mamie, Granny, mémé, mémère, mamita, mère grand, nos grands-mères avaient plus d'un tour dans leur sac pour trouver des solutions naturelles et efficaces pour nous soulager. Mais attention tout de même à ne pas s'improviser médecin pour autant. Je suis retournée dans mon pays natal, la Bretagne, où j'ai passé un peu de temps avec mamie Gilberte, qui m'a donné des astuces simples, abordables et surtout naturelles pour soulager nos petits tracas. Alors, par exemple, pour le mal de gorge, le miel fait des merveilles. Dans une tasse d'eau chaude, on dilue le jus d'un demi-citron avec 2 cuillères de miel. On y ajoute un peu de thym car le thym est à la fois antalgique et antiseptique et c'est parfait pour soulager.
Est-ce que vous pouvez nous faire avec la voix de mamie Gilbert ou pas, docteur Julie ?
Alors, par exemple, pour le mal de gorge ou le nez bouché.
Restez à l'écoute, vous êtes toujours sur Radio Campus Paris. Docteur Julie va reprendre sa voix chaude et suave.
Donc, pour le nez bouché, les inhalations restent très efficaces. Un bol d'eau très chaude, quelques essences de thym ou d'eucalyptus et une serviette pour s'isoler et respirer la vapeur. L'effet est immédiat. Pour le mal de tête, quelle est vicieuse cette petite migraine quand elle décide de s'installer ? Gilberte nous conseille un drôle de mélange pour l'éradiquer, café et citron. C'est pas bon mais efficace, m'a-t-elle dit. Prenez une tasse, une rondelle de citron, versez votre café chaud dessus, un sucre pour les plus peureux, laissez infuser 1 minute et buvez.
Pas mal, merci docteur Julie, mais surtout merci mamie Julbert, j'ai envie de dire.
Oui. Encore quelques conseils pour les maux d'estomac par exemple, rustique mais toujours très efficace, les infusions de camomille, mélisse, tilleul, fleur d'oranger ou menthe font leur effet pour aider les estomacs trop gourmands à digérer. Ou encore du citrate de bétaïne, un comprimé dans un verre d'eau en cas de digestion difficile. Pour les courbatures, voilà un des symptômes qui peut accompagner la grippe mais aussi les séances de sport un peu trop intensives. Pour soulager son corps, le bain chaud avec un peu de bicarbonate de soude reste le top. Et si l'on a de la chance d'avoir un volontaire sous la main, on peut aussi s'adonner à une séance de massage avec de l'arnica. Voici la liste non exhaustive des recettes de mamie Gilberte.
Merci docteur Julie pour tous ces conseils pour affronter l'hiver qui bien arrive déjà. Et c'est déjà l'heure également de retrouver nos infos qu'il faut.
Quoi de neuf docteur ?
Alors quoi quoi de neuf, docteur Marion? Et j'ai l'impression qu'on a en tout cas une journée, en tout cas une conférence, une rencontre. France Alzheimer, c'est le 8 décembre et c'est l'info qu'il faut.
Tout à fait. Alors effectivement, la 9e rencontre France Alzheimer aura lieu le 8 décembre prochain à la Maison de la Chimie, Paris 7e, dans le 7e arrondissement, effectivement. Et à cette occasion, donc, se dérouleront pendant cette journée des conférences autour de cette thématique. En fait, chaque année, elles permettent aux bénévoles et aux professionnels et autres personnes sensibles à la cause de se retrouver et de croiser les regards sur cette maladie pour essayer de faire avancer les points de vue, la connaissance et les expertises aussi. Les rencontres sont animées par Bruno Rougier, qui est journaliste à France Info.
Qu'on salue.
Allez, tout à fait, notre confrère.
Salut Bruno.
Donc ces conférences, ces rencontres en fait commenceront par une table ronde sur le plan maladie neurodégénérative. Quelles sont les déclinaisons et les mesures connues à ce jour, plus d'un an après l'annonce du plan, etc. Ce sera des temps d'échange là-dessus.
Alors c'est le plan qui est neurodégénératif ou les maladies du coup, docteur Marion?
A priori c'est plutôt les maladies. Le plan n'est pas neurodégénératif.
Merci docteur Marion.
La seconde table ronde de la matinée du coup sera autour de la parole justement donnée aux malades avec les expériences de terrain qui seront échangées et mises en avant lors de ce temps. Et comme à chacune des rencontres, un point sera fait sur les bourses de recherche attribuées par France Alzheimer et les maladies apparentées. Donc l'association investit en fait chaque année plus d'1 million dans la recherche scientifique médicale sur cette maladie.
Et une belle brochette avec une table ronde.
Voilà, tout à fait, une dernière table ronde puisqu'on ne fait que ça durant cette journée. On fait des tables rondes, serait-ce des chevaliers? On sait pas.
Merci. Allez, vous sortez, docteur Marion. Allez, on a des psychiatres, des neurologues.
Exactement. Et voilà, qui essayeront effectivement d'apporter des réponses thérapeutiques à ces troubles du comportement. En tout cas, voilà, il y a des choix ensuite d'ateliers et vous pouvez retrouver l'ensemble des informations sur
le site www.francealzheimer.org.
Tout à fait. Très facile à trouver.
Merci, docteur Marion. Et on écoute notre première page de musique et on écoute Play sur de Electrolux. Retour sur Radio Campus Paris, l'émission Petite Consultation entre Amis. Vous écoutiez Play de Electrolux et on retrouve tout de suite notre piqûre de rappel.
Maintenant, la suite de nos informations.
Tout aujourd'hui, jeunesse de France.
Mes chers compatriotes,
nous avons fait une perfusion continue des artères coronaires.
Et on écoute, jeunesse de France, une voix qui n'a rien à envier à celle de Malraux, c'est celle profonde et caverneuse de notre docteur Léo. Et cette semaine, vous nous parlez du jour où les firmes pharmaceutiques se sont unies contre l'Afrique du Sud. Et ce fameux jour, c'était le 19 avril 2011. 2001.
2001,
et pas 2011.
Exactement, 2001. Donc le 19 avril 2001, c'est la date à laquelle il nous faut remonter pour avoir les échos de la claque reçue non pas par une, mais par 39 firmes pharmaceutiques. Le 19 avril 2001, ces firmes décident de retirer leur plainte contre le gouvernement sud-africain. Alors sur quoi porter cette plainte? En réalité, ces firmes imputaient au gouvernement sud-africain une violation du droit des brevets tel qu'établi par l'accord sur les ADPIC. Alors c'est l'acronyme de accord sur les aspects des droits de propriété intellectuelle qui touchent au commerce. Pour résumer, cet accord de 95 voulait mieux protéger la propriété intellectuelle. Le problème, c'est que cet accord va entraîner une confrontation brutale entre deux droits. Le droit des brevets d'une part et le droit à la santé d'autre part. Alors pourquoi? Parce que le gouvernement sud-africain, via une loi passée par son parlement, refuse d'appliquer l'accord ADPIC quand il s'agissait de médicaments pour lutter contre le VIH, les antirétroviraux, les ARV. En gros, il continuait jusqu'à la plainte d'importer des génériques, donc des médicaments équivalents ou tout à fait identiques, mais souvent beaucoup moins chers parce que ceux qui les produisent n'ont pas eu à financer, donc à rentabiliser tout l'effort de recherche et d'innovation. Si vous voulez, les génériques, c'est un peu comme si on grave un CD qu'un pote a acheté. Vous n'avez pas la pochette ni le livret, mais le contenu reste le même et ça coûte rien.
Pas mal votre comparaison.
Elle est pas mal.
Exactement,
hein.
C'est bien.
Sauf que plus personne n'achète des CD maintenant, donc ça
oui,
marche
du coup,
plus
ça,
trop.
Ça marche presque. Ça marche presque.
Ça marche presque.
Tiens, je t'ai gravé du paracétamol. Ah oh, bah merci, il fallait
voilà,
pas, dis donc.
C'est, ça, c'est le principe. Voilà. Et donc, revenons un peu sur le comportement du gouvernement sud-africain qui a une raison, c'est-à-dire que les antirétroviraux non génériques, en fait, sont hors de prix pour les pays en voie de développement. Et donc, ne pas importer de génériques, ça revient à exclure des populations de l'accès à la santé et, dans le cas du VIH, de les condamner à mourir doucement, mais sûrement, parce qu'ils n'ont pas les moyens de s'offrir des traitements pour vivre. Alors, pour mémoire, l'Afrique du Sud, en 2001, c'est quand même 4,7 millions de personnes infectées par le VIH, et c'est le virus qui était responsable de 40% des décès des 15-49 ans. Donc, c'est assez monumental. Mais ça, les industries pharmaceutiques, elles n'ont que faire. Et voyant leurs droits bafoués, le libéralisme foulé aux pieds, elles portent plainte et montrent par la même occasion qu'elles n'ont peur de rien et encore moins de la morale. Alors, dans cette situation, la situation, elle peut se résumer de la sorte. On a des compagnies pharmaceutiques qui, dans une recherche assez folle vers le profit, hein, qui a de quoi les faire passer pour des espèces d'antéchrist modernes. Donc, ces industries, cet empire du mal contre un gouvernement représentant une population qui cherche à faire prévaloir la santé de ses citoyens. Finalement, ça pose la question de la conception et de la valeur de la santé. Est-ce que c'est un droit, une nécessité qui doit être accessible à tous, ou plutôt un produit marchand où la libre concurrence doit prévaloir? Le patient est-il un consommateur? Est-ce le business ou la vie? Alors évidemment, face à ce comportement, c'est la levée de boucliers de la part de la société civile sud-africaine, mais aussi de beaucoup d'ONG d'envergure internationale. Et les 39 firmes finissent par retirer leurs plaintes sous la pression d'une très grosse mobilisation médiatique. Les accords ADPIC vont ensuite évoluer avec la mise en place de dérogation pour autoriser les pays les plus pauvres à produire, puis à importer des génériques face à des situations de crise publique, de santé publique. En attendant, les industries pharmaceutiques, elles, ne produisent toujours pas de médicaments pour le bien-être de l'humanité, mais bien parce que cela rapporte beaucoup. Il faudrait peut-être qu'un jour, elles reviennent à leurs idéaux originaux plutôt que de se comporter en apôtre du business et en Belzébuth des patients. Qui sait, ce changement fera peut-être l'objet d'une petite piqûre de rappel, mais en attendant, l'enfer demeure vide et tous les démons sont ici.
Merci pour ce réquisitoire. Histoire. C'est beau, docteur Léo, c'est beau ce que vous nous faites. Et du coup, surtout, enfin, ce que vous nous dites, et surtout...
Je ne fais rien, je ne fais
voilà,
que
et on espère en tout cas qu'un jour, cette piqûre de rappel que vous évoquiez, eh bien, aura lieu. Et alors, on enchaîne, parce que je vois qu'à la réalisation, Quentin me fait des grands signes, eh bien, avec le mot de l'expression rigolote, surtout du médecin.
ODI, maintenant L, qu'est-ce que ça peut bien vouloir dire?
Et donc l'expression rigolote de la semaine, docteur Adrien, eh bien c'est casser sa pipe. Hein. Alors la signification, on la connaît un peu.
Exactement, docteur Loïc, casser sa pipe, donc ça veut dire mourir, hein.
Mais alors, par contre, vous êtes allé chercher un peu sur les origines. Alors, où est-ce que, c'est quoi l'origine finalement de cette expression casser la pipe?
Alors, mon cher docteur Loïc, je crois que je vais vous décevoir malheureusement.
Mais ça comme toutes les semaines, comme toutes les semaines, docteur Adrien.
Eh bien oui, pour ne pas déroger à la règle, parce que figurez-vous que l'origine de cette expression, n'est pas vraiment connue. Voilà, et donc c'est tout pour moi.
C'est tout. Donc votre chronique s'arrête là.
Voilà.
Non, vous allez nous en dire un peu plus quand même.
Évidemment, trêve de plaisanterie. Puisqu'en tout cas, on emploie l'expression dans ce sens depuis la fin du XVIIe. Et elle apparaît dans un autre sens en 1649 dans les Mazarinades, où elle veut dire « enragé, crevé de rage ». Voilà, pour casser sa pipe.
Très bien, mais vous pouvez aller même, j'imagine, un peu plus loin et nous dire un peu plus de choses, docteur Adrien.
Allez, faites-nous rêver, faites-nous rêver. Parce que même si on ne connaît pas l'origine exacte de cette expression, on a quand même deux, trois farfelus qui se sont amusés à chercher plus loin, justement. Et ils ont formulé deux explications. Alors, vous ne le voyez pas, mais je fais des guillemets avec mes doigts, parce que ce sont des explications farfelues, comme je vous l'ai dit. La première, c'est que sur les champs de bataille de guerre napoléonienne, les chirurgiens qui n'avaient pas d'anesthésiant pour opérer, placer une pipe en terre cuite entre les dents du patient pour qu'il la morde au lieu de crier. Le soldat qui succombait au cours de l'opération laissait tomber sa pipe par terre où elle se cassait. Voilà, ça c'est la première explication.
Et donc du coup on a d'autres explications. Il faut faire vite parce qu'à la réalisation on me hurle dessus.
D'accord, alors du coup la deuxième c'est qu'au théâtre on avait un acteur qui interprétait souvent le rôle de Jean Bart dans une pièce de boulevard. Il avait toujours une pipe en bouche sur scène pour interpréter le personnage justement. Et un jour au cours d'une représentation, la pipe est tombée, s'est brisée, l'acteur s'est affaissé, il était mort. Voilà.
Ah la vache, d'accord, ok.
Donc ça reste des pipes qui sont tombées parce que les gens sont morts. Mais
et alors troisième explication.
Ah ben il n'y en a pas de troisième.
Hein. Il n'y en a pas, comme je le disais. On fait bien de vous écouter, docteur Adrien.
Ah non, j'ai dit deux, docteur Loïc.
Pardon. Et bah du coup...
Voilà, donc c'est à vous de choisir celle qui vous le plaît le plus, hein, sachant que de toute façon, aucune des deux n'est bonne.
Allez, bah en tout cas, les deux pour le prix d'une. Merci. En tout cas, on espère que vous n'allez pas casser votre pipe et que vous serez là la semaine prochaine, docteur Adrien. Exactement. Espérons, on dit n'importe quoi aujourd'hui. Et justement, on dit n'importe quoi. Et on dit n'importe quoi également sur les forums internet.
Quand je fais pipi, c'est plus jaune que d'habitude.
Et docteur Julie, comme toutes les semaines, vous êtes allé fouiner sur les forums internet et vous avez trouvé la perle de la semaine. Alors la perle, elle est quand même très bien. Mon bébé peut-il lui-même tomber enceinte si je fais l'amour alors que je suis moi-même enceinte?
Oui, alors c'est le message de Florencia du 59 que je vais vous lire tout de suite. Donc, bonjour, je suis enceinte depuis 6 mois et je me pose énormément de questions. Mon bébé peut-elle tomber enceinte si je fais l'amour pendant que je suis enceinte? Je me suis renseignée, je peux vous affirmer que mon bébé peut tomber enceinte pendant ma grossesse seulement si c'est une fille. Je pense d'ailleurs qu'elle est déjà enceinte. On m'a conseillé de ne plus faire l'amour, sinon il y aurait un risque que le bébé de mon bébé tombe elle aussi enceinte.
Wow.
Et je tomberai donc dans une boucle infinie. Je finis le message car c'est assez drôle. Florencia du 59 nous dit « J'ai posé la question à mon docteur, il m'a certifié que non, mais je ne le crois pas à 100%. »
Waouh. Donc ça veut dire, oui, parce que du coup ça pourrait être intéressant, parce que c'est-à-dire le fœtus
Absolument.
Du fœtus pourrait voilà. lui être enceinte. Mais c'est-à-dire que ça serait
infini.
Mais alors du coup ça décalerait de 9 mois à chaque fois, c'est ça le...
C'est
ça
complexe.
Pourrait être intéressant
voilà,
du coup.
Je creuse de mon côté, voilà. Pour l'instant,
c'est direct.
J'aimerais...
Eh bien, Florencia serait grand-mère, arrière-grand-mère, arrière-arrière-grand-mère, en fait, quand elle accoucherait.
Voilà.
C'est pas mal, le miracle de la vie.
Le bébé naît et il accouche.
Voilà, c'est complexe, ça donne le tournis.
Allez, vous répondez à Florencia.
Voilà. Avant toute chose, voilà, je voudrais répondre à cette question. Est-ce qu'on peut avoir des rapports sexuels pendant sa grossesse? Donc, absolument. Donc, si vous menez une grossesse sans problème, vous pouvez faire l'amour jusqu'au début du travail. Cependant, si vous rencontrez des soucis pendant votre grossesse, il faut d'abord en parler à son gynécologue. Bien sûr, ça va de soi. Donc, les rapports sexuels vont-ils faire mal au bébé? Vous ne ferez pas mal à bébé en faisant l'amour, même si votre partenaire est au-dessus de vous. L'épais bouchon muqueux qui ferme l'utérus prévient tout risque d'infection. Le liquide amniotique et les muscles puissants de votre utérus protègent aussi votre bébé. Si votre enfant remue un peu après l'orgasme, ce n'est pas parce qu'il sait ce qu'il se passe ou qu'il a mal, mais juste parce que votre cœur bat très vite. Est-ce que ça sera aussi bien que d'habitude?
Et même mieux. Bah, si on vous pose la question, on a envie de savoir, voilà. Ça par contre.
Je suis très intéressée.
Et même mieux pour certaines femmes. D'autres trouveront ça moins bien, en fait. L'afflux de sang vers la zone pelvienne peut provoquer un engorgement de la zone génitale et augmenter les sensations. Mais chez d'autres femmes, cet engorgement peut laisser une désagréable sensation de grosseur après le rapport sexuel. Et voilà.
Donc en tout cas, on peut avoir des relations sexuelles,
oui,
pendant sa grossesse. En tout cas, il n'y a pas de risque
que
le fœtus tombe enceinte. Ça, là-dessus, on est quand même assez formel.
Absolument pas. Florencia.
Merci.
Rassurez-vous, la mise en abîme ne se fera pas.
Dommage. Merci en tout cas, docteur Julie, pour le pire et le meilleur du forum. Et Il nous reste quelques minutes exactement pour nos brèves de salle d'attente. On a le temps d'en faire au moins 2-3. Allez, qu'a-t-on retrouvé dans le cerveau d'un Américain ?
Un chat ?
Non, pas un chat. Pas un chat.
Une balle, un clou ?
Non, non, non.
Une dent.
Une dent, non.
Une petite cuillère.
Non.
C'est quoi, une partie du corps ?
Non, c'est pas une partie du corps.
Un corps étranger.
C'est pas un corps étranger, on peut
ah,
pas
ça
dire ça.
Poussé,
c'est, un,
là.
C'est une sorte d'organisme un peu. C'est comme
ah,
un organisme
verre.
Vivant.
Son jumeau.
Un verre.
Ah ouais, vous êtes pas loin, docteur Adrien. Un verre.
Un insecte.
Ouais, le verre et.
C'est ah un non, c'est un ténia.
C'est un verre solitaire. Un verre solitaire,
oui.
Exactement, qu'on a retrouvé en fait dans le cerveau d'un Américain. Voilà, dans le même cerveau, le cerveau de Louis Ortiz. Alors, rassurez-vous, il a été opéré. Et alors c'est un parasite qu'on retrouve généralement plutôt effectivement dans la zone plutôt digestive et intestinale. Et bien là, voilà, ils l'ont retrouvé dans un kyste, un verre solitaire. On ne sait pas encore du tout pourquoi ce verre était là. Oui, c'est très bizarre.
Quand on a le ténia, on peut maigrir. Est-ce que du coup, quand on a le ténia dans le cerveau, est-ce qu'on peut devenir un peu plus stupide ?
Un peu plus stupide. Ça, j'en sais rien. Allez, une dernière, et on part juste à côté de Paris, à Mont-Saint-Montois, et un jeune créateur a fait une tombe pour sa mère en forme de la tombe. Alors sa mère est décédée, il a fait une tombe et du coup
c'était en rapport avec le métier de sa mère peut-être.
Non, c'est un truc non. Alors par contre c'est un truc pratique pour le dimanche après-midi, le dimanche midi.
Une petite table.
Demain,
ouais,
s'asseoir.
Une table.
Yes.
Une table. Bien joué, docteur Léo. Une table. Exactement. Il crée une tombe en forme de table pour sa mère. Il dit bah c'est pratique. Il rentre des Philippines. Il dit voilà, là la fête des morts est joyeuse et donc du coup on a l'occasion de manger effectivement auprès des morts
sur
et donc là on peut
mère.
Manger sur maman.
C'est
plutôt sympa. Vous pouvez les voir effectivement.
Morts, du coup, quand même.
Exactement. C'est à Mons en Montau. Allez, on me dit que c'est déjà la fin. Eh bien de petites consultations entre amis. On se retrouve la semaine prochaine 17h30, 18h à la technicarisation cet après-midi, notre Auvergnat préféré Quentin.
Merci
juste après
Quentin.
Nous vous avez
merci
l'œil
Quentin.
À l'écoute. 19h vous retrouvez Tropical Club, plus d'infos sur www.radiocampus.org. vous allez sur notre petite consultation entre amis, sur l'onglet vous pouvez podcaster les émissions, etc.
Et
on vous souhaite une très bonne semaine. Bisous, ciao
ciao ciao, ciao. But in vents like death, I run pirates, the shots will die. An amazing sight, but all that glitter ain't gold.